C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Mardi 7 septembre. Bonne journée et bienvenue au 88,5. Alors, ce matin, c'est une journée qui s'annonce pas pire, je vous dirais, avec du temps ensoleillé. Les vents sont légers, maximum prévu autour de 23, l'humidex 25, en soirée quelques nuages, minimum de 17 pour la nuit. Demain, ça commence par un début, je dirais, un peu similaire à ce matin, mais au cours de l'après-midi, des averses sont prévues, un peu de pluie, quelques millimètres, pas très venteux, maximum 24, l'humidex 29. Et pour jeudi, soleil-nuage autour de 26 degrés. Vendredi, c'est du soleil-nuage 21. Alors, mis à part la parenthèse de pluie demain après-midi, c'est du temps quand même assez agréable. Et je vais vous dire que ce matin, ça sent la rentrée. On va reparler avec Marc tantôt, là. Mais il y a, disons, un achalandage plus important. Ça a commencé la semaine dernière, là, puis ça semble vouloir se confirmer ce matin. Beaucoup de choses, mais je pense que l'annonce de la mort de deux enfants suite à un accident impliquant un récidiviste de l'alcool au volant à Québec a ramené tout le débat qui fait rage quand ce genre de tragédie malheureusement se poursuit. Autant la limite de l'alcool, autant les sentences, autant les indemnités et la possibilité de poursuivre. Pour les gens qui auraient manqué ça, c'est un accident qui s'est produit jeudi. Alors que quatre membres d'une même famille, ça se passe sur l'autoroute de Frein Montmorency, c'est un, donc je le disais, un récidiviste de l'alcool, qui a frappé un SUV. Et la mère, Shelley Fletcher, ses deux enfants, Emma, 10 ans, et Jackson, 14 ans, ainsi que son beau-père, ont perdu la vie. Les deux enfants sont morts au cours de la fin de semaine. Ils étaient dans un état critique après l'accident. Et le grand-père a tenu à partager quelques messages durant la fin de semaine. Et des messages extrêmement troublants. Je vous donne juste un extrait de ce qu'il a écrit. « Je suis en train de vivre les pires et le plus triste moment de ma vie. Mon petit-fils, Jackson, 14 ans, sa demi-sœur Emma, 10 ans, sa mère, Shelley, et Jim, son grand-père, ont été tués mercredi soir par Éric Légaré, un criminel récidiviste de la conduite au volant en état d'ébriété. Cette loque a tué quatre personnes et changé à jamais, pour le pire, la vie de milliers de gens. » Et les enfants ont donc été transportés, et malheureusement, le constat de décès a été fait, ils ont été débranchés. Et tout ça pour permettre des dons d'organes. À 3 heures ce matin, à peu près, là, 3-4 heures, le grand-père a écrit un autre message en disant qu'on était pour procéder à tout ça, ces dons pour permettre à d'autres enfants peut-être de mieux vivre puis de s'en sortir. Et le grand-père écrit à plusieurs reprises, on oublie trop souvent les victimes collatérales. Et là, on parle des proches, on parle des amis. À chaque fois qu'il y a un accident comme ça, on mesure pas l'effet sur les autres. Et je vais en parler ce matin avec Maître Marc Bellemare. Au Québec, on avait pensé ramener à 5 mg la limite d'alcool. Ça avait fait l'objet d'un débat assez houleux. On sait que Bellemare est allé en politique, entre autres, pour permettre de poursuivre les gens qui conduisent en état d'ébriété puis qui provoquent des accidents, parce qu'on doit continuer à les indemniser. C'est ça le régime au Québec d'assurance automobile. Et les sentences, comment se fait-il que des gens peuvent perdre leur permis de conduire? Je dirais presque à répétition, il y a des récidivistes de l'alcool. Il y en a pour qui les sentences ne veulent rien dire, les mesures ne veulent rien dire et deviennent des gens extrêmement dangereux. Donc, on va vous parler de ça ce matin. Dossier COVID, 2, 3, même 4 éléments ce matin. D'abord, on va regarder les chiffres, toujours important, voir les tableaux. Si on résume la situation au Québec, quand vous regardez les gens qui ont obtenu la deuxième dose dans les groupes d'âge où la vaccination est permise, on est à 80 %, ce qui est élevé, mais qui n'est pas... Il y a quand même une marge de 20 %, puis les gens qui ont une première dose, c'est autour de 87 %. Quand vous avez aussi le tableau concernant le nombre de cas, alors, exemple, 530 cas COVID, dont 419 de gens pas vaccinés ou avec une première dose seulement. 23 personnes hospitalisées, dont 20 qui sont non vaccinées, avec une hausse aux soins intensifs. Ce qui, évidemment, fait réfléchir et ce qui montre l'efficacité de la vaccination. Puis je vous donne un exemple, courriel que j'ai reçu. Une auditrice, mon conjoint et moi venons d'être testés positifs à la COVID. 40-41 ans. Notre fils de 11 ans, qui n'est pas vacciné, l'a attrapé, nous l'a refilé. Nous, on a deux doses Pfizer depuis le mois de juin. Son petit frère de 8 ans est également positif. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu es vacciné, tu peux avoir la COVID. Mais la probabilité que tu te retrouves avec de graves symptômes te conduisant à l'hôpital est réduite, c'est-à-dire de façon spectaculaire. Les gens non vaccinés ont pratiquement 30 fois plus de chances de se retrouver à l'hôpital. Alors, c'est important de le rappeler, même quand on est double vacciné, d'avoir ces mesures. Premier élément, est-ce qu'on a atteint un plafond? Le ministre Dubé a dit, en fin de semaine, puis ça a fait beaucoup réagir, il faut apprendre à vivre avec le virus. C'est sûr, mais là, il faut définir ce que c'est vivre avec le virus. Ça veut dire, malgré le fait qu'on soit double vacciné, en tout cas à mon point de vue, de garder un certain nombre de mesures, d'accepter qu'il y ait des cas, puis de faire en sorte que la vaccination progresse, même si actuellement, ça fait du surplace. Puis quand vous regardez les deux doses dans certains groupes, on est à 67 % chez les 18-29, 72 % chez les 30-39 ans, puis presque 75 chez les ados. Peut-être qu'avec la rentrée scolaire, ça va augmenter. Maintenant, c'était un premier week-end avec le passeport vaccinal pour la restauration. Beaucoup de commentaires de gens qui me disent « On est allé au restaurant, il n'y avait pas beaucoup de monde. » On en parlait avec Elisabeth tantôt. D'autres, ou des restaurateurs, ont décidé peut-être de lever le pied un peu avec comme image. Ben, c'est le 15 septembre que ça va s'appliquer avec toute la force. Quelqu'un qui me dit, par exemple, ils sont allés dans un resto en fin de semaine, il y avait distanciation, etc., personnel. Bref, les mesures sanitaires étaient appliquées. Et là, tu arrives, tu dis, je vais montrer mon passeport. On dit, pas nécessaire, ça commence le 15, des groupes de 50 personnes, les gens qui se promènent d'une table à l'autre, etc., etc. Avec, tu sais, ça avait comme levé le pied. D'autres restaurateurs, même si le week-end, la fête du travail, n'est pas un week-end nécessairement où il y a foule dans les restaurants. On parle d'un resto à Boucherville, il n'y a pas beaucoup de monde. C'était assez tranquille. Bref, c'est une période d'ajustement. Est-ce que des gens ne vont pas au restaurant parce qu'ils veulent pas être vaccinés? Ça se peut. Ça se peut. Ça se peut que des gens disent, ben moi, pas question que j'encourage les restaurateurs qui appliquent la règle. Très bien. Est-ce que des gens sont encore nerveux face à l'idée de se retrouver dans un restaurant? J'en connais, qui même double vaccinés veulent pas aller au restaurant. Moi, je suis allé. Sérieusement, là, avec ta preuve vaccinale, une pièce d'identité, ça prend 30 secondes, puis tu vas t'asseoir, puis c'est terminé. Puis à l'intérieur, les normes sont respectées. C'est sûr que ça dépend du restaurant, puis je pense que les gens vont s'ajuster. Ma plus grande préoccupation, puis c'est pas d'hier, là, ça concerne la qualité de l'air dans les écoles. Quelqu'un disait en fin de semaine, cette espèce de pensée magique qu'on a, que les enfants, eux, ont moins de symptômes, puis que les enfants vont mieux résister à la COVID, nous amène à penser que c'est pas trop grave qu'il y ait des cas de COVID dans les écoles. Je comprends, mais là, on le voit que les enfants peuvent contaminer des adultes. Là, depuis le début de la pandémie, le ministère de l'Éducation se traîne les pieds dans le dossier de la qualité de l'air. Je vais appeler ça comme ça, là, on peut parler de la ventilation, on peut parler des capteurs de CO2, mais appelons ça la qualité de l'air. Le Journal de Montréal nous dit que le fameux contrat de 70 millions qui est prévu pour équiper les classes du Québec de détecteurs de qualité de l'air n'arrive pas à trouver preneur. 6 entreprises ont répondu à l'appel d'offres, dont 4 qui ont une expérience assez limitée. Moi, j'ai vu dans d'autres cas, puis je pense dans le cas des masques, où des entreprises répondaient aux appels d'offres pour mieux le donner en sous-traitance. Tu sais, c'était pas des entreprises qui étaient, disons, spécialisées dans le domaine. Ce qui fait qu'on a besoin de 90 000 appareils destinés à mesurer le CO2. Donc, d'ici la fin de l'année, on veut équiper les classes. Est-ce qu'on va être capable de le faire? Comment ça se fait qu'on se traîne les pieds depuis ce temps-là? Puis là, je comprends qu'il y a des fabricants qui disent qu'il y a des délais de production à cause de la pandémie, la rareté de certaines pièces, que ça va être difficile. Sur le site de Radio-Canada ce matin, il y a une experte du MIT qui nous explique que la qualité de l'air est un enjeu important. Qu'il faut rappeler que dans le cas de la COVID, c'est une maladie respiratoire hautement contagieuse et que c'est un vœu pieux donc de croire que les salles de classe ne seront pas infectées à des taux élevés. Et arrive toute la question des variants. Et je voyais hier encore des débats sur le fameux variant Delta, mais sur d'autres variants. On va regarder tout ça avec le Dr Weiss ce matin. Puis, dernier volet là-dessus. Donc, depuis aujourd'hui, tous les voyageurs, les touristes internationaux qui ont la pleine vaccination pourront venir au Canada. C'était réservé aux gens qui avaient une raison de venir, là. Mais maintenant, vous venez passer des vacances à Montréal, il n'y a pas de problème si vous avez la double vaccination puis que vous avez passé un test qui s'avère négatif. À la différence de l'Europe, où on a classé des pays, le Canada, il y a quelques exceptions, là. Je pense qu'il y a l'Inde, puis il y a aussi le Maroc. Le Maroc, ça crée beaucoup de problèmes. Les vols ont été annulés. Puis il y a des gens qui sont partis là-bas au mois d'août, qui sont coincés, j'y reviendrai. Mais il n'y a pas de classement géographique. Puis on dit « Welcome in Canada ». Des experts se posent des questions. Puis là, on parle de gens doublement vaccinés, des gens qui passent également un test et pour qui la quarantaine n'est pas obligatoire. Parlant de la quarantaine, j'ai une anecdote à vous conter tantôt. Un auditeur qui m'a écrit ça, qui est revenu d'un voyage à l'étranger puis qui a eu à gérer l'arrivée au Canada. Pour vous donner un exemple de l'impact de la COVID aux États-Unis, des gens qui nous ont vanté les vertus de la Floride, vous avez regardé la courbe des cas récemment, vous avez réalisé que l'expérience floridienne est une catastrophe. Et ça veut dire non seulement en termes de cas, mais d'impact sur le réseau de la santé. Puis on n'arrête pas de dire que les hôpitaux fonctionnent de façon extraordinaire, puis que c'est bien meilleur que le Québec. Mais là, ça déborde. Et il y a deux États, l'Oregon et l'Idaho, où le niveau de vaccination est très faible. Et là, on commence à manquer de lits pour ce qui est des soins intensifs. Juste apporter cette information additionnelle. Puis l'idée, c'est pas de convaincre là, ceux qui pensent que la COVID est une invention, puis que c'est une grosse grippe. Mais on se rend compte de plus en plus quand on regarde vers les États américains ou les zones où la vaccination est peu élevée ou pas très élevée, ça donne des infections à répétition, d'autant plus que les mesures sanitaires dans beaucoup de ces États ont été, disons, mis de côté. Je vais parler ce matin avec Amy Coutu, qui est une infirmière clinicienne qui a démissionné du 6 Lanaudière. Long message en fin de semaine sur Facebook. Pourquoi? C'est un travail, dit-elle, qui l'a rendu malade, le temps supplémentaire obligatoire, l'incapacité de concilier. On dit souvent travail-famille, là, mais on pourrait dire concilier travail et vie personnelle. Famille ou pas. Pourquoi je dis ça? Elle dit « Je suis célibataire et sans enfant. » Et quand arrive l'imposition du temps supplémentaire obligatoire, je n'ai pas d'excuse pour refuser. Je me retrouve à faire des fins de semaine de 50 à 60 heures régulièrement. Et elle n'est pas la seule à vivre ça. Moi aussi, j'ai envie d'avoir une vie sociale, de faire des rencontres, puis d'avoir une famille. Alors, elle dit, c'est clair que je perds mon ancienneté, je perds du salaire, je m'en vais travailler au privé, je vais avoir un horaire stable, du lundi au vendredi, pas de soir, pas de fin de semaine, j'ai la possibilité d'avoir des jours de congé collés. Bref, je choisis la qualité de vie. Et je vais vous dire une chose, si on veut garder des infirmières dans le réseau de la santé, puis si on veut attirer des infirmières dans le réseau de la santé, avoir une réflexion à faire, non seulement sur les conditions, là, puis je sais que l'entente qui a été signée ne fait pas l'affaire de ben des infirmières, mais sur ce que j'appelle la souplesse syndicale ou encore la rigidité syndicale. Disons qu'il y a un débat à faire là-dessus, pas juste la paye. Mais tu sais, est-ce que quelqu'un qui rentre dans le réseau va passer sa vie à travailler les nuits de fin de semaine en raison des clauses d'ancienneté? C'est tout ce débat-là, je pense, qu'il faut faire. Rapidement, la campagne électorale. On est à 13 jours du vote. Il y a un débat demain. Un autre débat en français. Et on se dirige tranquillement vers un gouvernement minoritaire. Monsieur O'Toole prend du volume dans cette campagne. Monsieur Trudeau perd des plumes. Le Bloc performe. Le NPD, pas si mal. Mais ce que je veux dire par là, la grande question, l'enjeu, qui va être premier ministre du Canada? Justin Trudeau, Erin O'Toole. Monsieur O'Toole, c'est vrai que ça monte, mais tout le débat, par exemple, sur les armes à feu, entre ce qu'il dit, puis certains de ses candidats affirment, c'est aussi vrai sur la question de l'avortement, et il a promis de maintenir l'interdiction pour certains types d'armes à feu. Et il répète, je suis le chef. Sauf que beaucoup de ses candidats répètent pas la même chose, puis vous avez vu sans doute hier incident qui implique M. Trudeau, alors qu'il est accueilli par des protestataires, il y a la gang de Maxime Bernier qui le suit, puis là on tente d'empêcher l'autobus de passer, on tente d'empêcher les partisans de se réunir, puis là on lance des petites roches à M. Trudeau, et on affirme qu'il n'est pas question de mettre fin à cette tournée électorale pour des raisons de sécurité. Dans Le Devoir ce matin, on parle de l'accès aux médecins de famille. Donc, la proportion de citoyens inscrits à un médecin de famille dans chaque région du Québec, ça, c'est la demande qui a été faite par Le Devoir. Le délai moyen d'attente pour les patients dits prioritaires, ça, ce sont les chiffres du 31 juillet. C'est à Montréal que le taux d'inscription est le plus faible. Au CIUS, 64% des citoyens ont un médecin de famille. Puis là, ça se promène à 68-69. Au Québec, c'est 80%. Si vous êtes dans le fameux guichet puis que vous attendez puis que le délai, c'est 450 jours, c'est 600 jours. À chaque fois que je parle de ça, les gens partagent leur situation personnelle. Ben, c'est clair qu'on n'a pas, on est loin d'avoir réglé ça. Et puis un mot en terminant, vous irez voir sur le site de Radio-Canada ce reportage sur des écoles qui ont détruit 5000 livres jugés néfastes aux Autochtones. Alors, des livres écrits il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, périmés, ou l'image. Puis là, ça inclut Tintin, puis ça inclut Astérix, puis ça inclut des livres, où, je le disais tantôt, on emploie l'expression, les Esquimaux. Les auteurs, encore vivants, trouvent ça effrayant. Et est-ce qu'il y a moyen de garder ces œuvres-là avec toutes les mises en garde, ou s'il faut faire disparaître le passé? Complètement. 5000 livres qui ont été détruits, on va vous en reparler un peu plus tard.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, un drame épouvantable à Québec. Une famille complètement détruite. La mère, deux enfants, le beau-père. C'est un récidiviste de l'alcool au volant qui a provoqué cet accident. Les adultes sont morts pratiquement sur le coup et les deux enfants sont décédés. On a accepté de les débrancher et là on est rendu, et encore un des grands-pères partageait sur Facebook un message en disant que dans quelques heures on procéderait donc au don d'organes. Ce qui amène tout le débat encore une fois sur l'alcool au volant, sur les règles, est-ce qu'on est assez sévère avec notamment les récidivistes. Je fais le tour de la question avec Maître Marc Bellemare. Maître Bellemare, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Dans un premier temps, là, parlons des récidivistes de l'alcool au volant. Selon ce que vous savez, est-ce qu'il y en a beaucoup et est-ce qu'on peut être un récidiviste, je dirais, à plusieurs reprises avant de sentir la main de la justice?
Oui, oui, mais évidemment, si on est récidiviste, forcément, c'est qu'on a été condamné ou qu'on a plaidé coupable à ce genre d'infraction-là par le passé. Mais oui, il y en a beaucoup de récidivistes et à mon avis, on leur donne... On leur rend la vie facile. On suspend pas les permis comme l'Ontario, par exemple, après trois récidives. On suspend le permis à vie. On pourrait le faire au Québec. On pourrait imposer des peines minimales aussi, beaucoup plus importantes, beaucoup plus élevées, mais on le fait pas. On est timide, particulièrement au Québec.
Quand vous dites particulièrement au Québec, là, vous voulez dire comme l'exemple de l'Ontario. On est plus sévère en Ontario qu'ici avec les récidivistes.
Oui, tout à fait, parce que la suspension de permis, ici, on a des récidivistes, ça fait 5-6 fois, puis ils récupèrent éventuellement leur permis quand même si c'est après plusieurs années, alors que l'Ontario a modifié il y a déjà presque une vingtaine d'années son code de la sécurité routière pour faire en sorte qu'après tant d'infractions, tant de récidives, il y a une suspension à vie du permis, ce qui simplifie beaucoup le travail des policiers, soit dit en passant, parce que surtout dans les régions rurales, on connaît le moineau, on sait que c'est tel individu qui a été suspendu à vie. Alors, c'est beaucoup plus facile de vérifier s'il circule quand même en voiture.
OK. Est-ce qu'au Québec, on impose des conditions strictes, par exemple, à quelqu'un, quand on suspend le permis, pour le retour du permis, est-ce qu'on est capable de vérifier si ces conditions-là sont respectées?
Oui, ben on a fait. Il y a quand même des modifications au code de la sécurité routière aussi au Québec qui ont été amenées il y a plusieurs années pour une personne qui présente un risque, par exemple une dépendance à l'alcool, dépendance aux drogues. Il y a des mesures de réadaptation, il y a une suspension de permis pendant un certain temps. Après ça, il y a des tests qui sont passés pour s'assurer que l'individu n'est plus dépendant. Il y a les kilomètres aussi, qui est une mesure intéressante. Mais il reste que on sait statistiquement qu'il y a quand même beaucoup de personnes dont les permis sont suspendus qui conduisent quand même. C'est quand même quelque chose de pas facile à vérifier. Et bon, alors on a au Québec une certaine propension à parler beaucoup, mais à agir moins.
Il y a eu un débat il n'y a pas si longtemps quand même, quelques années, là, sur la limite légale de consommation d'alcool. Là, 8 mg qu'on voulait ramener à 5 mg, ça ne s'est pas fait.
Bon, 5 mg, écoutez, même en Saskatchewan, c'est 4 mg parce qu'il est bien établi qu'à partir de 4 mg, vos facultés sont déjà affaiblies, peut-être pas autant qu'à 8, mais à partir de 4, 5, les facultés sont déjà affaiblies. Vous présentez un risque doublé d'être impliqué dans un accident mortel. Alors, ben encore là, on pourrait faire plus au Québec, je l'ai dit tantôt, mais on le fait pas. Puis dans d'autres provinces, dans la plupart des provinces du Canada, je pense que c'est juste le Québec qui est encore à 0.08. Ça veut pas dire, le code criminel est le même partout au Canada pour 0.08 pour une infraction criminelle, mais on peut avoir une infraction pénale, c'est-à-dire dans une loi provinciale, qui permet de prendre un certain nombre de mesures, comme par exemple priver l'individu de son véhicule pendant un certain nombre de jours s'il présente un taux d'alcoolémie inférieur à 0.08 à partir de 0.04 ou 0.05. Ça se fait ailleurs avec un certain succès, mais ici, on parle beaucoup de l'alcool au volant, on s'indigne facilement, mais dès qu'on a un beau-frère qui est arrêté par la police, on a tendance à banaliser, à excuser le comportement. Alors, on a un discours un peu ambigu par rapport à l'alcool au volant. C'est culturel, probablement, ici.
OK. L'autre question, et c'est une question de débat, là, quand on aborde le sujet, là. On comprend bien qu'au Québec, quelqu'un qui est en état d'ébriété au volant, qui provoque un accident en raison de ses problèmes d'alcool au volant, conduit avec les facultés affaiblies, blesse des gens, tue des gens ou se blesse lui-même, lui va être indemnisé. Autrement dit, la SAC là, va payer s'il doit être à l'écart du travail, va recevoir des indemnités.
Oui, puis c'est évidemment, ça fait longtemps que je le dénonce, une quarantaine d'années, depuis que l'assurance automobile publique existe au Québec, donc depuis 1978, la SAC a payé des millions de dollars à des chauffeurs. Cet individu-là là, qui a tué 4 personnes, demain matin, son salaire va être remplacé complètement par la société d'assurance automobile. On va payer son psychologue, on va payer ses frais de déplacement, on va payer pour ses séquelles. Alors, il a les mêmes droits, même s'il a causé lui-même un acte criminel et s'est lui-même infligé des blessures, parce que je pense que vendredi dernier, il a comparu de l'hôpital, alors c'est forcément qu'il est blessé. Alors, il a les mêmes droits sur le même pied que ses propres victimes. Alors, c'est certain que c'est là aussi, on a un double discours, parce qu'on retire le permis de la main droite, mais on donne un chèque de la main gauche, et par ce comportement-là, on banalise beaucoup la question de l'alcool au volant, en indemnisant les chauffeurs et au surplus, en empêchant les victimes, les familles des victimes, de poursuivre ce chauffeur-là. Quand il y en a des moyens, il ne paye pas un sou. Là. Alors, la société d'assurance automobile va payer pour les blessés, les décès, mais cet individu-là ne sera pas du tout incommodé. On ne lui demandera pas de payer 500 $ en remboursement d'indemnité. Je vous donne l'exemple, par exemple, du Manitoba, qui a aussi un régime de no-fault, assurance sans égard à la faute. Là-bas, si vous avez été impliqué dans un accident et que vous êtes responsable à cause de l'alcool ou de la drogue de vos blessures, vous serez privé de toute indemnité pendant un an. Alors, au moins, il y a une mesure, mais au Québec, on n'en a pas. Donc, vous avez droit à toutes les indemnités si vous êtes infligé vous-même des blessures, ce qui est aussi un problème important auquel les gouvernements ne se sont jamais attaqués depuis 42 ans.
Merci, Maître Bellemare. Bonne journée.
Ça me fait plaisir.
Au revoir.
Merci.
Maître Marc Bellemare.
L'essentiel de Paul Arcan.
Amy Coutu est infirmière clinicienne. Elle a démissionné du CIS Lanaudière et on a pu voir les détails, le contexte dans un message sur Facebook qui a été largement partagé, qui a énormément fait réagir en fin de semaine. Elle aime son travail, elle aime son métier, sa profession d'infirmière, mais les conditions de travail l'ont rendue malade. Elle est avec nous ce matin. Amy Coutu, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Première question, vous avez travaillé en cardiologie, vous avez travaillé aux soins intensifs. C'est pas la nature du travail qui vous fait quitter, c'est vraiment le contexte dans lequel vous devez travailler.
Exactement. En fait, là, comme j'explique dans mon message, là, j'ai développé une passion là, pour les soins intensifs, la cardiologie. C'était deux départements pour lesquels j'avais jamais pensé travailler durant mes études, mais j'ai développé tout ça durant mon parcours grâce à mes collègues et tout. Là, donc, voilà.
OK. Qu'est-ce qui fait que vous quittez le réseau de la santé?
Il y a plusieurs raisons, évidemment. Là, on en parle depuis déjà un bon moment là, au niveau des conditions de travail qui deviennent de plus en plus difficiles là, dans le système de santé publique. On parle des TSO, on parle des changements d'heure de dernière minute parce qu'évidemment, l'employeur a la possibilité de changer nos horaires au-delà de 7 jours sans préavis. C'est ça. Avec aussi la pandémie, on avait des changements de consignes, en fait, pour appliquer nos soins et tout. Donc, ça devenait extrêmement difficile.
Parlez-moi du temps supplémentaire obligatoire. On comprend que c'est pas occasionnel, que c'est rendu un outil de gestion malgré tout ce qu'on nous dit. Vous dites à un moment donné, je me retrouvais à faire des semaines de 50-60 heures régulièrement.
Exactement. Durant, dans le fond, tout le temps que j'ai travaillé pour le CIS de la Nodière, moi, je travaillais temps plein. Puis, comme la plupart de mes collègues aussi, évidemment. Et quand vient notre tour de TSO, ils prennent pas en considération, en fait, si on travaille temps partiel, temps plein et tout. Donc, malgré le fait que le 40 heures semaine soit déjà fait, si ton tour de TSO arrive, en fait, c'est ton tour. Donc, tu dois le faire, dépasser le 40 heures semaine. Tu n'as rien à dire, donc tu dois rester pour faire un 16 heures, dans le fond. Rajouter un 8 heures consécutif à ton corps régulier.
Puis quand vous ajoutez ces heures supplémentaires, j'imagine que ça arrive souvent qu'il manque encore du personnel. Autrement dit, c'est pas parce que vous êtes en temps supplémentaire que les effectifs sont réguliers.
Exactement. Des fois, on peut combler, comme des fois, il peut y avoir toujours des manques. Parfois même, on peut parler de 1, 2, voire même 3 TSO sur le corps suivant.
Fait que vous ramassez un corps où les gens qui sont là sont épuisés. En partant.
Oui, exactement. La moitié de l'effectif, parfois, peut être en temps supplémentaire obligatoire. Donc, on parle de 4-5 infirmières qui sont régulières sur leur corps de travail, puis on complète avec des infirmières qui sont en 16 heures.
2-3 éléments que j'aimerais aborder avec vous parce que vous soulevez des points importants. Le premier, j'ai beaucoup d'infirmières qui m'écrivent qui refusent des postes à temps plein justement à cause de ça, en se disant « je vais travailler 2 jours, 3 jours, pas plus, parce que je vais faire une semaine complète de 40 heures durant mes 3 jours ».
Oui, c'est exactement. Moi, en fait, c'est quelque chose que j'avais l'intention de faire. J'avais baissé, dans le fond, à 8 jours aux 2 semaines, donc 4 jours par semaine. Mais évidemment, avec les arrêtés ministériels imposés par le gouvernement, on nous imposait malgré tout le temps complet. Donc, oui, beaucoup de mes collègues travaillaient temps partiel, mais c'est ça. Avec la nouvelle convention collective qui vient de passer, on va obliger à chaque infirmière de travailler 7 jours aux 2 semaines, donc 3 jours une semaine, 4 jours l'autre. Puis, évidemment, pour certaines infirmières, c'est aberrant. Pour d'autres, ça leur convient, évidemment. Mais c'est ça, on n'a plus vraiment le choix de travailler temps complet pour l'instant.
OK. Vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, puis on parle souvent de la conciliation travail-famille. Dans votre cas, on peut dire c'est la conciliation du travail et de la vie personnelle, d'avoir du temps pour soi.
Exactement. Évidemment, vu ma situation, parfois, ça a un avantage de dire que je n'ai pas de conciliation travail-famille, mais dans d'autres situations, ça peut aussi me nuire, étant donné que certaines de mes collègues ont des enfants, ont une famille. Donc, sur certaines situations, quand on impose un TSO, bon, ben ma collègue doit aller chercher ses enfants au World, donc mon taux de TSO revient plus rapidement.
Ça veut dire que toutes ces semaines-là, ces mois-là accumulés, vous étiez une infirmière épuisée.
Oui, complètement. En fait, comme je vous dis, ma vie, on disait que en tant qu'infirmière, on avait l'avantage de pouvoir parler avec nos collègues durant la pandémie. Mais je vous dirais qu'à un moment donné, on parlait plus, on fait seulement notre travail, puis on espérait que les choses aillent de mieux en mieux, de jour après jour.
OK. Comment s'est ouverte la fenêtre vers une clinique privée?
En fait, moi, j'ai commencé l'année en dépression. Donc, c'est là que je me suis rendue avec cette pandémie-là, le travail et toutes les impositions. Évidemment, quelques raisons personnelles qu'on mentionnera pas ici. Mais durant mon arrêt de travail, plusieurs cliniques privées m'ont approché. Puis, évidemment, les propositions de conditions de travail étaient non comparables à ce que j'avais. Puis, évidemment, j'ai accepté même de baisser de salaire pour pouvoir avoir des conditions de travail.
Et c'est le genre de clinique privée qui vous approche, et quel genre? C'est des médecins, c'est des cliniques de soins esthétiques, c'est des cliniques médicales privées. C'est quoi exactement? Qui vous approche?
De tout. En fait, la pénurie est autant dans le secteur public que privé. J'ai eu des cliniques esthétiques qui m'ont approché. J'ai eu des médecins. J'ai eu aussi des agences internationales, en fait. Ah. Oui, exactement, mais aussi de voyages pour faire de l'aide humanitaire. J'ai vraiment eu de tout.
Puis l'emploi que vous avez accepté, c'est du lundi au vendredi, horaire régulier, vous ne travaillez pas la nuit, vous ne travaillez pas la fin de semaine?
Pour l'instant, on me parle de lundi au vendredi avec un horaire de jour, mais il y a des possibilités de travailler de soir aussi. Là, on parle de 12h30 à 20h. Par contre, c'est des horaires qui vont être fixes. Donc, ce que je veux dire, c'est que mon horaire, quand elle va sortir, il n'y aura pas de changement. Si on sort les horaires un mois d'avance, mon horaire du mois va être ça, sans aucun changement de dernière minute. Là.
OK. Si vous aviez la chance de parler au ministre de la Santé, qu'est-ce que vous lui diriez sur la façon de garder des infirmières dans le réseau puis d'attirer des infirmières dans le réseau?
Je vous dirais, j'ai pas vraiment de conseils précis parce que je suis une infirmière, donc côté politique, c'est pas vraiment mon...
Non, mais vous connaissez le milieu, vous savez comment ça se passe. Mettons, là, vous voulez l'aider à éviter des départs comme le vôtre.
Oui, je crois que la meilleure chose que je pourrais lui dire, c'est d'écouter les infirmières. Je pense qu'il y a un manque de communication entre le premier ministre et les infirmières. Lui, dans son bureau, nous, sur le plancher, je pense qu'on est les mieux placés pour apporter des solutions à chaque problématique qu'on rencontre. Donc, écoutez les infirmières, puis on vous propose des solutions en permanence. Essayez de les appliquer, espérons que les choses aillent mieux.
Vous dites dans votre message, c'est le cœur gros, mais la tête légère que je ne serai plus l'employé. Hashtag 6301.
Oui.
Vous avez le cœur gros, pareil, même si c'était épuisant.
Écoutez, pour avoir fait des emplois, on va se dire étudiante, puis pour avoir trouvé ma place en tant qu'infirmière dans le réseau de la santé publique, le cœur gros, en fait, c'est de quitter des collègues de travail qui sont maintenant des amis. De quitter ces personnes-là aussi exceptionnelles les unes que les autres, avec qui on partage une passion incroyable. Ça a été une décision difficile. Puis comme j'ai mentionné un peu plus tôt aussi, la passion que j'avais de faire mon travail en tant qu'infirmière dans le secteur public, ça a été une décision qui a pris, je vous dirais, près de 6 mois. Là.
On comprend que les infirmières, pas toutes, là, mais quand même un bon nombre, sont pas très contentes de la dernière entente pour la convention collective. Puis il y a d'autres qui me parlent aussi de rigidité syndicale, rigidité de convention, que c'est complexe à gérer les conventions collectives. Est-ce que vous sentez ça aussi?
Oui, pour ma part, je fais partie de celles qui étaient plus ou moins en désaccord avec cette convention collective-là. C'est vrai qu'on a eu quelques gains, mais selon moi, face à les derniers 18 mois qu'on a passés, je pense qu'on aurait pu aller chercher encore plus. Moi, ce que je trouve aussi, et beaucoup de mes collègues aussi, c'est qu'on donne de plus en plus de pouvoir à notre employeur sur justement nos droits en tant qu'infirmière.
Merci, Mme Coutu. Bonne journée.
Merci à vous, M. Bollarcan, de donner une voix aux infirmières.
Merci. Émy Coutu est infirmière clinicienne démissionnaire du CIS de Lanaudière. Elle a travaillé durant ces années, elle a occupé quand même beaucoup de postes, mais travaillait en cardiologie et aussi, entre autres, aux soins intensifs à l'hôpital Pierre-Legardin.
L'essentiel de Bollarcan. L'essentiel de Bollarcan.
On va commencer ce matin par le dossier COVID. Pourquoi? Parce que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit par un message sur les réseaux sociaux que la vaccination commence à plafonner, que les gens vont devoir s'habituer à vivre avec le virus. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que d'un côté, Le Canada ouvre les frontières aux gens qui sont doublement vaccinés, les touristes, il n'y a pas de distinction géographique, mis à part quelques exceptions. Un test négatif, preuve des deux vaccins, et vous pouvez venir au Canada, ce qui inquiète un certain nombre de personnes. Et toute la question aussi donc des variants et de la ventilation dans les écoles. Je fais le point avec le Dr Carl Weiss. Dr Weiss, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Arcand.
Première question, quand le ministre nous dit on va devoir s'habituer à vivre avec le virus, comment vous le décryptez, ce message-là, vous?
Bien, regardez, c'est quelque chose qui était déjà discuté depuis longtemps dans les cercles, on va dire, scientifiques de par le monde. Le virus s'appelle COVID-19 et on est rendu en 2021. Donc, ce qu'on pensait au début être quelque chose d'éphémère et de limité dans le temps, vous vous rappelez la première vague, on avait mis tellement d'emphase sur quand est-ce qu'on allait atteindre le pic de la première vague, il y avait des conférences de presse à ce sujet, etc. Et aujourd'hui, ben, c'est sûr que ça peut paraître un peu dérisoire dans le contexte de ce qui s'est passé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble de la planète est pris avec ce virus-là. Tant qu'on ne contrôlera pas le virus à l'échelle de la planète, il restera des poches de virus un peu partout, qui va provoquer l'émergence de nouveaux variants, de nouvelles souches, un peu comme la grippe, si vous voulez. Et par conséquent, ben, on ne verra pas la disparition du virus rapidement. Donc, il va falloir trouver des solutions qui vont être un ensemble de solutions, c'est-à-dire c'est un agrégat de mesures dont on a déjà parlé, les vaccins, les masques, l'hygiène des mains, le traçage, le dépistage, etc., pour contrôler le virus dans notre environnement de façon à ce qu'on puisse avoir une vie normale au Québec, au Canada, dans une espèce de bulle, si vous voulez, à la limite nord-américaine, où on n'aura pas la latitude et la liberté d'action en termes, par exemple, de voyage ou en termes d'organiser tout et n'importe quoi quand on veut où on veut, mais on sera capable de limiter les dégâts et d'avoir une vie quasiment normale si on met, si vous voulez, les mesures en place. Donc, ce que ça veut dire que la COVID-19, qui est avec nous en 2021, ben, probablement qu'elle, ça se peut qu'elle soit encore avec nous en 2023. De toute façon, c'est l'histoire des pandémies dans l'humanité. Quand vous voyez les pandémies, souvent, ça a duré des années. Vous savez, si vous lisez la peste à l'époque de l'Empire romain, ça a duré des décades. Donc, évidemment, si on parle d'une autre époque, mais c'est juste que la période d'influenza, la grippe espagnole, a duré plusieurs années. La peste qui a frappé l'Europe au Moyen-Âge a duré plusieurs années. Donc, ça fait partie, si vous voulez, de ce genre de choses-là. Quoi.
Bon, ben justement, dans ce contexte, l'ouverture des frontières par le Canada en disant « Vous avez un test négatif de 72 heures, vous avez la preuve d'une double vaccination, venez voyager, peu importe la provenance, là, sauf exception. » Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ben, je pense que ça peut être correct, mais j'ai un gros problème avec ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu de l'aéroport de Montréal, tout au moins, c'est qu'il y a eu une très mauvaise gestion et un mélange de l'arrivée de tout le monde. Donc, les gens qui viennent des États-Unis sont mélangés à ceux qui viennent d'Europe et d'autres destinations. On a vu des photos avec des files d'attente extrêmement longues. On a vu des photos avec des gens qui étaient dans ces files d'attente qui portaient mal leur masque. Donc, il n'y avait personne pour leur dire quoi que ce soit. Donc, on a une recette potentielle pour un désastre si les choses ne sont pas améliorées rapidement et pour pas avoir l'introduction de variants. Bien sûr, on peut dire les gens doivent être doublement vaccinés, les gens doivent tester négatifs, mais on a vu aussi que le Canada a fermé les vols avec certains pays parce qu'ils se posaient des questions sur la véracité des documents qui étaient présentés. Et c'est sûr qu'il va y avoir, à l'échelle planétaire, toutes sortes de faux documents, de faux vaccins administrés. On l'a même vu aux États-Unis, des gens qui ont falsifié des documents. Donc, c'est pas une assurance, ce genre de choses-là. Donc, moi, je suis pour l'ouverture des frontières. Et si c'est bien fait, et surtout si c'est bien organisé et bien structuré, il y a une amélioration considérable à faire à ce niveau-là, au niveau de l'entrée des aéroports, probablement.
Bon, on parle beaucoup du variant Delta. Est-ce qu'il y a d'autres variants présentement qui font l'objet d'analyses et qui pourraient nous apparaître un jour, dans 6 mois, je ne sais pas, comme étant la souche dominante?
Oui, alors il faut apprendre ces lettres de l'alphabet grec. Parce qu'il y a des variants, il y a un variant lambda qui est un variant qui origine au Pérou. Il y a un autre variant en Amérique du Sud qui s'appelle mu, comme la lettre grecque mu, qui vient de Colombie principalement, qui sont des variants que les gens, je vous dirais, sont en train de regarder avec intérêt, donc regarder l'évolution. Je pense qu'on est arrivé aussi avec le variant Delta un virus qui devient extrêmement transmissible. Donc, le virus, si vous voulez, lui, s'est amélioré beaucoup. Et donc, sa capacité d'amélioration, elle va plafonner à un moment donné. Donc, on a un variant Delta qui est extrêmement contagieux. Et donc, oui, on va avoir d'autres variants ici et là, parce que c'est la nature même des virus. Hein. Vous savez, c'est pour ça qu'on se fait vacciner contre la grippe tous les ans. C'est parce que la grippe change tellement, potentiellement, d'une année à l'autre, que c'est des virus qui s'adaptent, qui changent, qui se transforment. Il faut voir ça comme une espèce de serrure, si vous voulez. Et le vaccin, c'est la clé. Alors, c'est comme si vous aviez une serrure, puis je vous donne une clé, donc qui s'imbrique parfaitement dans la serrure. Puis chaque année, il y a un petit changement de la serrure qui permet encore à votre clé, en jouant un petit peu au bout de 2-3 ans, de continuer à pouvoir ouvrir votre serrure. Mais à un moment donné, le changement plus le petit changement et les 10 petits changements vont faire que la clé ne s'adaptera plus. Vous allez devoir appeler votre serrurier pour avoir une nouvelle serrure. Donc, c'est un peu ça la course des vaccins pour tous ces virus à ARN, que ce soit la COVID ou la grippe, l'influenza.
Bon, je vais vous parler des écoles parce que, et je pars d'un exemple très simple, des auditeurs qui m'écrivent, des gens qui ont 40-41 ans, doublement vaccinés. Les enfants sont pas éligibles à la vaccination. Alors, un arrive de l'école, testé positif COVID, son frère est positif COVID. Ils ont pas d'effets secondaires graves, mais il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent encore là de la qualité de l'air. Je voyais d'autres études sur la transmission aérienne en fin de semaine. Il y a une préoccupation quand même dans les écoles. Ça fait presque deux ans qu'on va parler de COVID, là. On avance lentement dans ce que j'appelle la qualité de l'air dans les classes.
Vous avez tout à fait raison. Donc, bien sûr que la qualité de l'air, la ventilation jouent un rôle important dans la transmission de ce virus-là. Et je pense que vous avez signalé plusieurs points importants. Le premier, c'est qu'actuellement, pour revenir aux parents, ce qu'on voit à l'hôpital, c'est des gens jeunes actuellement hospitalisés. On voit deux catégories de gens. On voit des gens jeunes, dans la quarantaine, la cinquantaine, hospitalisés, très malades, pas vaccinés. C'est l'immense majorité des cas qu'on voit. Puis le deuxième groupe, c'est des gens doublement vaccinés, mais avec des grosses maladies, des dialysés, des gens qui ont eu des greffes, des gens, des cancéreux, traitements intenses de chimiothérapie, etc. Ces gens-là sont un peu moins malades que les autres. Donc moi, je dirais aux parents, doublement vaccinés, relativement jeunes et en bonne santé, oui, il y a un certain risque, mais probablement, très fort probablement, votre risque de tomber très malade, d'être hospitalisé ou d'avoir une maladie sévère est très faible si vous êtes doublement vacciné. Par contre, on voit des gens qui, non vaccinés, vont tomber très malades et risquent d'avoir des complications importantes. Ça, c'est la première chose à souligner. La deuxième chose, il y a une étude britannique qui vient de sortir qui montrait que chez les enfants de 12 ans à 19 ans à peu près, et les adolescents, qui avaient fait la COVID légère, que 3 mois plus tard, il y avait un groupe significatif, plus que dans les groupes contrôle, qui présentait toutes sortes de symptômes, de fatigue, de troubles de concentration, etc. Donc même si la COVID est bénigne chez les enfants, c'est une maladie qui peut laisser des séquelles qui sont pas forcément, je dirais, faciles à vivre. Le troisième point, évidemment, c'est la ventilation. C'est clair que logistiquement et de façon structurelle, c'est compliqué de changer la ventilation dans les établissements d'enseignement au Québec, dont certains sont vétustes. Mais c'est clair que si on conserve le masque à l'intérieur des classes, pour les plus de 12 ans, s'ils sont vaccinés, si on est capable à cette période de l'année encore de garder les fenêtres ouvertes, donc de favoriser un ensemble de mesures, ça va aider. La ventilation toute seule n'est pas la solution, n'est pas la panacée, mais comme pour tout le reste, c'est quelque chose qui s'ajoute à la vaccination au masque pour diminuer de façon importante le nombre de cas. Par contre, c'est clair que l'école, la rentrée scolaire, va être une source, si vous voulez, d'amplificateur du nombre de cas. Ça a été comme ça l'an dernier, et puis ça va être comme ça cette année. La seule chose qu'on espère, c'est que le nombre de cas serait beaucoup moins grand grâce à une campagne de vaccination qui a quand même été très bien au Québec, puisque le Québec est un des endroits dans le monde où la proportion de gens doublement vaccinés avec de bons vaccins aussi, il faut souligner, est la plus élevée. Donc, on espère qu'il y aura un impact pour mitiger, si vous voulez, l'impact de la pandémie avec l'ouverture des écoles.
Merci, Dr. Weiss. Bonne journée.
Aussi.
Au revoir, Dr. Carl Weiss, est microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital juif de Montréal.
L'essentiel de Paul Arcan.
Très bien. L'alerte Amber s'est arrêtée en fin de semaine dans le bas du fleuve alors que le père et son fils de 3 ans, dans un premier temps, ont été localisés. On l'a su donc samedi en fin de journée, samedi soir, et ça a été jusqu'à dimanche midi, jusqu'au moment où on a pu donc apprendre qu'ils étaient sains et saufs, que le père donc était arrêté, il a d'ailleurs comparu. Il y a un chef d'accusation de déposer contre lui. Et il y a beaucoup de questions parce que d'un côté, on a eu l'alerte Amber qui a donné le point de départ, puis en même temps, on a déclenché l'opération Filet. Christian Michaud est le directeur adjoint à la direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec. Monsieur Michaud, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Peut-être revenir, là, d'abord expliquer aux gens, l'alerte Amber, c'est une chose, puis l'opération Filet, c'est une autre chose, et c'est rare que les deux arrivent en même temps.
Effectivement, vous avez raison, c'est extrêmement rare. C'est d'ailleurs l'une des premières fois que ça arrive.
OK, c'est quoi ça, l'opération Filet?
L'opération Filet, c'est lorsqu'il y a de différentes situations que l'opération Filet est mise en place, dont, entre autres, lorsqu'il y a un tireur actif ou un tireur embusqué, lorsqu'il y a une prise d'otage qui est localisée dans un endroit précis, également lorsqu'il y a une personne qui se trouve à être... qui a des idées suicidaires et qui menace autrui. Ou encore, le dernier critère, c'est toute autre personne ou toute autre situation nécessitant la mise en place d'une opération Filet parce qu'il y a des complexités dans l'événement.
OK. Mettez-moi ça dans le contexte là, des derniers jours dans le bas du fleuve.
Oui, ben effectivement, dans le fond, dans parler de l'opération Filet, là, c'est lorsque on a eu la découverte, là, on a localisé l'individu dans son domicile. À ce moment-là, il y a eu échange de coups de feu. La structure de l'opération Filet était déjà sur place, fait que donc il y a eu rapidement une prise de périmètre par le groupe d'intervention GTI, et suite à ça, on a mis toute la structure de l'opération Filet en place avec des unités spécialisées. On a divers spécialistes dans différents domaines. C'est une structure qui est paramilitaire, je vous dirais, dans laquelle chacun a son rôle à jouer, et c'est dirigé par un commandant d'opération Filet qui, lui, vraiment dirige l'ensemble des spécialistes et est conseillé par des spécialistes dans chacun des domaines, et on tente de prendre contact avec le sujet à l'intérieur. Bien entendu, la contact, c'est toujours dans le but d'avoir une négociation. La Sûreté du Québec, on privilégie la négociation dans le but d'avoir une reddition pacifique et éviter le plus possible l'utilisation de la force, puisque notre objectif, c'est de protéger la vie de toutes les personnes, du public, de la personne, surtout de la prise d'otage, mais également de nos policiers.
OK. Juste comprendre là, ce qui est arrivé, là, puis je sais qu'il y a des limites, là, compte tenu qu'il y a des accusations. Là. Est-ce que je comprends que le père avait quitté avec son fils sa maison, le territoire, il s'est poussé en VTT, vous avez retrouvé le VTT, vous avez retrouvé des éléments avec de l'ADN, puis que quoi, il est revenu vers sa maison?
C'est exact.
Comment il a pu revenir vers sa maison?
Bien, il a pu revenir vers sa maison. Vous savez, la surveillance et les recherches, il y a différentes façons de le faire. Et là, c'est la petite ligne mince là, que je dois faire attention.
Ouais, ouais.
Il y a des techniques d'enquête qu'on préfère garder pour nous, pour l'efficacité de nos opérations. Mais bien entendu, là, comme vous le savez, là, je tiens à rassurer la population. Là. Cet individu-là n'était pas dans sa maison tout ce temps-là. Là. Je vous rassure là-dessus. Il y a eu plusieurs vérifications qui ont été faites. Il y a eu une expertise de la scène très minutieuse qui était faite. Il y a eu des éléments qui nous ont aidés d'avancer dans l'enquête qu'on a trouvé dans cette maison-là. Puis éventuellement, là, c'est là qu'on rentre dans les techniques d'enquête.
Ouais.
Mais il est revenu à son domicile et c'est là que les policiers ont été intervenus pour circonscrire, dans le fond, la menace.
Que je comprenne bien, là. Il est revenu et vous le saviez qu'il était de retour chez lui.
Je vous le confirme.
OK. Est-ce que, durant cette opération-là, l'enfant, là, mis à part qu'il était détenu en otage, était en danger? Pouvez-vous me dire ça? Est-ce que cet enfant-là était menacé par son père? Est-ce que vous avez craint pour la vie de l'enfant?
En fait, c'est la raison pour laquelle on déclenche l'alerte Amber. C'est un des critères essentiels.
Non, mais une fois qu'il est retourné dans la maison avec son père, là, une fois que vous l'avez...
Oui.
Est-ce que l'enfant était menacé?
On a toujours eu peur pour tout le long de l'opération pour la sécurité de l'enfant.
Et est-ce que le père était directement agressif face à son enfant, à l'endroit de son enfant?
Ça, M. Arcand, c'est des détails qui vont être élevés dans l'enquête, mais effectivement, nous, comme policiers, on prenait tous les moyens pour assurer la sécurité de cet enfant-là.
Et je comprends bien, quand il a vu la police, il a tiré vers la police.
Je vous le confirme, effectivement.
Plusieurs fois?
Il y a eu plusieurs coups de feu qui ont été tirés lors de l'opération.
OK. À plusieurs reprises ou le même événement?
Je voulais, pendant l'opération Filet qui était déclenchée.
Oui, mais ce que je veux dire, il a tiré plusieurs balles une fois ou il a tiré à différents moments là, des négociations que vous avez eues avec lui?
il a tiré à différents moments dans l'opération.
OK. Et ça a pris donc toutes ces heures-là, c'est quoi, c'est une douzaine d'heures pour arriver à obtenir sa reddition?
Exactement, exactement. On établit rapidement un contact avec le sujet par l'entremise de nos négociateurs, bien entendu, mais également par certains membres du groupe tactique d'intervention qui ont réussi à établir un contact efficace pour mener jusqu'à une reddition et jusqu'à temps qu'il soit appréhendé par le groupe tactique d'intervention.
OK. Il y a une question qui est dans la tête des gens. Une fois que la Sûreté du Québec annonce que l'alerte Amber est levée, que le fils et le père donc ont été localisés, à ce moment-là, on ne sait pas quelles sont les conditions. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont vivants? Pourquoi vous annoncez la fin de l'alerte Amber alors que l'opération comme telle filait et pas complétée?
En fait, l'alerte Amber, c'est un outil qui nous permet de localiser l'enfant ou le ravisseur là, le plus rapidement possible. Et lorsqu'on met l'opération en branle, l'opération filet, un des critères, c'est que la prise d'otage soit localisée. Alors, à partir de ce moment-là, l'enfant, on le sait qu'il est avec le père. On a les éléments qui nous permettent de croire que l'enfant est localisé.
Je pose une question, puis je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Savez-vous pourquoi il l'a enlevé?
Confirmer que je peux pas répondre, M. Arcan, parce que ça fait partie de l'enquête.
Okay.
Tout ce qui a rapport, peut-être juste pour expliquer à vos auditeurs, tout ce qui a rapport au profil de l'individu, à la victimologie, aux circonstances, aux événements particuliers, tout ça, vous comprendrez que c'est des éléments qui vont être utiles pour le système judiciaire, puis je veux pas m'interférer dans leur travail.
Comprends ça. Merci beaucoup, M. Michaud.
Je vous remercie.
Au revoir. Christian Michaud est le directeur adjoint à la Direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec.
L'essentiel de Paul Arcan.
C'est 23.